Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Fabrice Divisio. Bonjour maître.
Bonjour.
Merci de me consacrer les quelques minutes que je vais passer avec vous pour évoquer l'actualité. Il y a plusieurs sujets que je voulais aborder avec vous, mais d'abord, où en êtes-vous des procédures que vous menez, des procédures collectives ?
Ça dépend. En fait, il y avait cette première vague de procédures contre le gouvernement qui a conduit à la mise en examen d'Agnès Buzyn et puis finalement à la décoration par la Légion d'honneur, c'est parce qu'elles sont en France. Il y a effectivement Olivier Véran et Édouard Philippe qui sont également visés par la même plainte et la Cour de justice avait ouvert donc une information judiciaire dont on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Jérôme Salomon bénéficie, lui aussi, avait été visé par une enquête et l'ouverture d'une information judiciaire. On ne sait pas ce que c'est devenu. Tandis qu'effectivement, nous multiplions naturellement les recours contre les mesures qui sont prises. Moi, je viens de demander là, par exemple, en urgence, avant même que le pass sanitaire vaccinal soit voté dans les jours qui viennent, la réintégration des soignants suspendus dans le Conseil d'État, au motif que quand on a 300 000 cas par jour, qu'on a 4 000 patients en soins critiques, je peux croire qu'on ait besoin de tous les soignants sur le front quand même.
Alors, dans l'actualité, sur le site je ne suis pas un danger, je ne suis pas un danger.com, pour les auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture, c'est facile à retenir, vous publiez ce sondage IFOP qui est très intéressant, qui traduit, je le pense, on le croise dans la rue, moi je l'entends, beaucoup de Français disent il faut pas soigner les non-vaccinés, finalement c'est à eux de prendre en charge les frais puisqu'ils n'ont pas voulu être non-vaccinés. Je trouve, maître, que c'est assez intéressant parce que ça remet finalement dans le fond notre modèle social universel et la sécurité sociale. Parce que ces non-vaccinés pourraient peut-être leur répondre « Chiche, mais remboursez-nous les cotisations sociales !»
Mais, si vous voulez, il y a deux paramètres. On nous a beaucoup, ça a beaucoup fait couler de bruit, enfin, beaucoup fait couler d'encre ce sondage, a beaucoup fait de bruit. On nous a beaucoup voulu, Marianne vient effectivement de titrer un truc, enfin, il y a plein de monde qui nous reproche ce sondage. Mais nous, à un moment donné, ce qu'on voulait, c'était prendre un état de l'opinion. C'est se dire, où est-ce qu'on en est, vous avez tout à fait raison, du modèle social. Quel est le modèle social qui aujourd'hui a encore cours dans le pays, lorsqu'on entend quelques médecins de plateau télé, quelques politiques, quelques journalistes venir commencer à finalement attaquer les non-vaccinés, est-ce que c'est pas la remise en cause d'un système social ? Normalement, le système français était ainsi fait qu'il était un système solidaire, déconnecté de la notion de responsabilité personnelle. Et du risque pris. C'est-à-dire que, précisément, on admettait l'idée que finalement, à partir du moment où, je suis, peu importe mon comportement, je paye des cotisations sociales et c'est la grandeur de l'État de ne pas regarder qui doit être soigné ou pas et c'est la différence avec l'assurance privée, finalement. D'autre part, il y avait cette notion de finalement, d'accès universel aux soins. Finalement, on s'aperçoit que peut-être le temps est venu de refondre ce système. Mais attention, parce que si on met le doigt dans cet engrenage, impossible de l'en sortir et il nous prendra tout le bras. C'est-à-dire que moi, je veux bien un système libéral et les personnes qui aujourd'hui viennent fustiger les non-vaccinés doivent se poser une autre question. Oui. Pourquoi on en est là ? Pourquoi est-ce que finalement il y a une telle tension hospitalière ? Et posons-nous la question différemment. Si est-ce que 4000 patients en soins critiques, et c'est beaucoup, je peux l'entendre, mais ça ne représente jamais que 0,005% de la population française. Or, on est en panique, donc avec un hôpital qui ne peut pas prendre en charge 0,005% de la population. Est-ce que, finalement, le vrai problème, c'est que nous n'avons pas tout fait pour en arriver à un système de libéralisation du service public de la santé, au terme duquel on choisirait les patients, les bons patients, les mauvais patients, sur un critère qui aujourd'hui est le risque qu'ils ont pris, mais qui demain pourra être la fortune qui est la leur, finalement. En d'autres termes...
Ou ce qu'ils contribuent à la fiscalité du EPI.
Ah, bien sûr. Parce que moi, je connais bien les États-Unis, pour le coup, pour y avoir exercé et pour y avoir vécu. Les Américains ne se posent pas cette question-là. Vous avez un système d'assurance et on vous dit, voilà ton niveau de protection parce que tu évalues toi-même ton niveau de risque et en fonction, d'ailleurs, du risque que tu représentes, ou on a une surprime, ou on ne t'assure pas. Est-ce que finalement, c'est pas un peu ça l'idée ? Ce qu'on est en train de dire aux Français aujourd'hui, aux non-vaccinés, écoutez messieurs, vous avez fait, messieurs, dames, vous avez fait un choix, eh bien moi je suis favorable à ce que vous ne payez pas, à ce que vous payez vos soins de réanimation. En d'autres termes, je ne vous couvre pas, donc je ne veux pas que l'assurance vous couvre. Sauf que mes amis, ça, là où vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'en mettant le doigt dans cet engrenage, vous mettez fin à un modèle de civilisation, et c'est exactement ce qu'attend le gouvernement. Et que donc, le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt, vous voyez les non-vaccinés au terme d'une communication absolument complètement stupide au demeurant, mais effectivement derrière, ce qui va se poser, c'est le problème de l'obésité, le problème, parce que, allons plus loin, quand je suis vacciné et que j'entre en soins critiques, j'ai deux questions. Pourquoi est-ce que finalement je paierais les soins de réanimation d'une personne vaccinée alors qu'on sait que le Covid ne tombe pas par hasard sur les gens? Mais quand j'ai des comorbidités majeures comme l'obésité, que je fais 150 kilos, est-ce que c'est à moi de payer le risque que représente cette obésité sur le plan cardiovasculaire et donc sur le plan maintenant du Covid? Est-ce que c'est à moi de le prendre? Est-ce que c'est à moi de le payer? Ah oui, mais je me suis vacciné. Ah oui, mais le vaccin, il marche pas à tous les coups. Le vaccin, c'est une porte d'entrée. C'est effectivement une possibilité. C'est une pas une baguette magique. C'est un outil. Et on sait que finalement, une hygiène de vie correcte, on sait que si vous aviez maigri, on sait que si vous n'aviez pas tous ces problèmes de santé que vous avez vous-même contribué à avoir, vous auriez éliminé vos chances ou réduit considérablement vos chances de mortalité. Et donc, à ce titre, est-ce que c'est à la collectivité de prendre en charge ce risque? Ce que je veux dire, c'est que si on met le doigt dans cet engrenage, on peut aller très,
c'est pour
très,
ça que je vous
très,
ai posé cette
loin.
Question. C'est tout notre modèle social, Fabrice Divisio. Je vais trois exemples. Voilà, moi, je ne fais pas de ski. Donc, je vais dire, je ne veux pas que mes cotisations sociales réparent ceux qui ont des accidents de ski parce qu'ils ne sont pas obligés de faire du ski. Notre studio est à la boule. Je vais dire, moi, je ne nage pas. Je ne vois pas pourquoi on va soigner les gens qui se sont étouffés en nageant. Mais je vais même elle prend l'exemple similaire sur une maladie. Elle est beaucoup plus loin, être un peu provocateur. Sur le sida, on pourrait dire qu'on ne va plus soigner les gens qui ont le sida parce qu'ils auraient pu l'éviter en étant fidèles ou en n'ayant pas d'acte sexuel. Voilà.
Mais bien sûr.
Je provoque, vous m'avez compris.
Moi, si je vais pousser la provocation jusqu'au bout, parce que vous pourriez aller beaucoup plus loin avec le sida, en venant effectivement y rajouter une jolie discrimination sexuelle, parce que finalement, on sait que le sida a touché je ne sais pas si c'est encore le cas, mais a quand même d'abord touché les communautés homosexuelles.
Historiquement, c'est vrai.
Je veux dire, et donc on pourrait parfaitement dire que, attendez, les communautés homosexuelles, moi je suis désolé, c'est un choix qui vous concerne. Moi, je n'ai pas à critiquer votre choix, mais vous n'avez pas à le faire porter à la République. Et donc, si vous voulez, l'idée générale qui sous-tend ce qu'on est en train de vivre, c'est que on va vous dire c'est très différent. Mais non, c'est pas pareil du tout, Jérémy. Pourquoi? Parce que les homosexuels n'encombrent pas le système de santé, parce qu'ici, le problème, c'est que l'hôpital est à bout et que vous avez effectivement des soins critiques qui sont tels que c'est plein, et donc c'est des déprogrammations et des pertes de chance pour les autres patients et des soignants qui sont, vous l'entendez souvent, des soignants épuisés. Oui, mais alors, ça pose un problème. Donc je suis responsable du fait que l'hôpital n'a pas assez de lits pour accueillir des gens en situation épidémique. Je suis responsable du fait que l'hôpital est sous-dimensionné par rapport aux besoins de la population. Je suis responsable du fait que vous n'avez pas respecté les alertes de la Cour des comptes pendant des années qui venaient vous expliquer que, globalement, on avait un nombre de lits d'hospitalisation inférieur à celui du Gabon et qu'on a une diminution substantielle de 16% des soins critiques depuis quelques années, avec un vieillissement de la population, et que si nous avons une décorrélation, un décrochage entre l'augmentation de l'espérance de vie et les maladies qui s'y associent, et le nombre de soins critiques. Donc je suis responsable, moi, c'est-à-dire que 10% de la population, en gros c'est à peu près ça, la vaccination, bien, 10% de la population est responsable, en substance, des choix qui ont été faits depuis maintenant 20 ou 30 ans. Premier élément. Deuxième élément, à ce compte-là, il suffit encore de réduire le nombre de lits et ensuite, finalement, de venir dire que une personne non vaccinée, une personne porteuse de la grippe, car enfin, allons plus loin, vous savez que chaque année, vous l'avez constaté, les hôpitaux sont pleins à craquer, et notamment en période d'épidémie comme la grippe. Mais moi, je voudrais poser une question. Pourquoi ce débat ne se pose pas alors pour les 55% de personnes non vaccinées contre la grippe qui sont en soins critiques ou en hospitalisation? Il faut savoir que nous avons un taux, Santé publique France le montre, un taux de vaccination contre la grippe qui est très largement inférieur à celui du Covid. Or, pourtant, chaque année, la grippe encombre les lits d'hôpitaux. Pourquoi, moi, je devrais payer mes enfants, par exemple, sont vaccinés contre la grippe? C'est un choix qui a été fait depuis qu'on vient des États-Unis. Pourquoi, alors que mes enfants sont vaccinés contre la grippe, ils devraient payer pour ces égoïstes de parents qui refusent de vacciner leurs enfants contre la grippe alors qu'ils savent pourtant que la grippe peut emporter des enfants? Elle fait une dizaine de morts d'enfants par an. Pourquoi?
C'est logique, on peut aller très loin. On va aller très loin.
Mais ça s'appelle modifier le contrat social, ni plus ni moins en fait.
Ben voilà, là, c'est pour ça que je vous ai dit, on remet en cause notre modèle social.
Ce qui est très grave, c'est qu'effectivement la modification du contrat social, elle doit se faire, elle peut se faire. Moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'elle se fasse en soi, on peut en débattre. Tout doit être débattu. Mais un, pas par l'anathème, deux, pas en culpabilisant une infime partie de la population, car enfin, pensons-y un instant, pourquoi les non-vaccinés devraient-ils payer les tests PCR des personnes vaccinées? Je peux savoir? Puisque le vaccin protège, donc, c'est nous les égoïstes, moi je ne suis pas vacciné, mais c'est nous les égoïstes, dans la mesure où finalement, un, concrètement, si je comprends bien, on ne veut pas s'en vacciner et donc on ne pense pas aux autres, mais concrètement, si je résume, les personnes vaccinées se baladent partout avec un pass sanitaire sans avoir à se soumettre à un test et peuvent donc nous contaminer là où nous, depuis 6 mois, on se soumet avec un pass sanitaire. Et deux, nous avons à payer nos tests alors que nous payons les vaccins de 90% de la population et leurs tests. Vous m'expliquez là? Non. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous avons une dictature de l'émotion et que ça arrange bien certains qui veulent foutre à plat le système. Et vous avez 52% d'imbéciles dans ce pays, si le sondage est vrai, qui se sont laissés avoir. C'est tout.
Ben moi, je propose que l'on ne soigne plus les jardiniers qui ne sont pas vaccinés contre le tétanos. Voilà.
Absolument. Enfin, je suis parfaitement d'accord. Mais je suis parfaitement d'accord. Et moi, je propose qu'on ne. Et je propose, alors j'allais beaucoup plus loin, je propose qu'on ne soigne plus, non plus les cavaliers dont je suis, pour le coup, qui ne sont pas vaccinés contre le tétanos, qui est pourtant mon cas, je suis vacciné. Oui. Mais je pense qu'il ne faut plus non plus. Venir rembourser les soins de ceux qui meurent de pneumonie alors que le vaccin contre le pneumocoque existe et qu'il est efficace, on peut aller très loin. Et vous voyez bien que ce débat, en fait, il est une hystérisation du débat que le vacciné, non vacciné, tout le monde s'en fout. Parce que, pardonnez-moi, mais il y a un autre débat qu'on pourrait imaginer d'avoir, c'est quand même qui va payer les conneries du gouvernement depuis un an, dans la mesure où, concrètement, on nous avait expliqué qu'il fallait vacciner 70% de la population et le virus disparaîtrait, qu'ensuite, il fallait vacciner 80% de la population et le virus disparaîtrait. Il faut vacciner 90% de la population, mais le virus ne disparaîtra pas, mais c'est juste pour éviter les formes graves. Or, voilà quelque chose d'assez surprenant, c'est que c'est pas les liens de chiffres, c'est ceux de l'adresse. 63% des personnes qui décèdent du Covid à l'hôpital sont vaccinées. Bon, alors qu'est-ce qu'il s'agit d'en déduire? Il est où le temps où on célébrait Israël en grande pompe qui revivait? Et où effectivement, moi, je disais, attendez les gars, soyez un peu prudents. Quand je réclamais, moi, de ne pas tout réouvrir, et où je disais qu'il fallait faire attention au mois de juin, et peut-être ouvrir avec des jauges, parce qu'il faudrait éviter l'idée, effectivement, d'une surcontamination, on nous répondait que pas du tout, parce que la France était vaccinée et en bonne voie de le faire. Et finalement, aujourd'hui, on referme les discothèques, donc si vous voulez, et on empêche les personnes de vivre, alors que ça fait 6 mois, qu'elle se soumette à un pass sanitaire. Quand je disais, il y a quelques mois, sur le plateau de TPMP, qu'au fond, le pass sanitaire n'avait qu'un seul intérêt, c'est si tout le monde se faisait tester, parce que le vaccin ne protégeait pas de la contamination. Qu'est-ce qu'on avait répondu? On avait répondu que pas du tout, qu'en réalité, j'étais complotiste ou que sais-je. Et encore aujourd'hui, alors qu'on a 300 000 cas jour, qu'on sait que le vaccin ne protège pas de la transmission, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue d'accorder un privilège aux vaccinés. Donc, vous êtes vacciné depuis 2 mois et demi, vous vous baladez où vous voulez. À l'hôpital, en particulier, vous vous baladez dans tous les services en étant vacciné depuis 2 mois et demi, mais moi, l'égoïste, dont on veut me faire crever et pas payer les soins, je me balade avec un test PCR de 24 heures. Et c'est à moi qu'on fait un procès. Mais on est devenu dingue. On est devenu marteau dans ce pays.
Alors Fabrice...
Enfin, dans ce monde.
Alors Fabrice Divisio, dans l'actualité, il y a dans le Parisien du 9 janvier une tribune publiée par David Smadja, professeur en hématologie, et maître Benjamin Fellous, avocat au barreau de Paris, qui milite pour des poursuites judiciaires à l'encontre des non-vaccinés transmettant le virus. Et ils expliquent, par exemple, qu'un juge pourrait considérer une infraction d'administration de substances nuisibles qui serait constituée si un non-vacciné contamine quelqu'un. Vous l'avez vu, cette tribune.
Voilà. Bien sûr que je l'ai vu, puisque je poursuis l'avocat en question. Je le poursuis dans l'ordre des avocats, en les mettant face à leurs responsabilités, en disant à un moment donné, allons jusqu'au bout du procès, parce que vous savez que l'ordre des avocats me poursuit, puisqu'effectivement, manifestement, mes positions anti-pass ne leur sont pas tellement, ne leur conviennent pas tellement, et donc il a fallu qu'ils aillent chercher très très loin pour me poursuivre, en disant que j'avais dit à Benjamin Castaldi que c'est un abruti, et que donc c'est très inconvenant de dire à Castaldi que c'est un abruti, quelle que soit la vérité du propos. Je veux dire, le fait est que j'avais traité, j'avais de manière très amicale, parce que maintenant on est bien avec tout le monde, et qu'il y a cette vivacité sur le plateau de TPMP, qui est celle qui, si elle est...
C'est dans l'émission voilà que... même, je me souviens dans mon enfance, il y avait Michel Pollack le soir
exactement
sur TF1,
exactement,
les gens employaient
exactement
des mots pires, et il n'y avait pas de procès.
Et d'ailleurs, c'est très amusant, parce que Yann Moix a dit de l'émission de TPMP qu'elle est l'héritière de droit de réponse de Michel Pollack. Bon. Mais alors, tout ça pour dire que, par contre, il va falloir qu'il se positionne sur le fait qu'un avocat écrit une tribune, ici précisé qu'il milite pour, non, il milite d'abord pour la LREM, puisque la particularité de mon confrère, c'est qu'il était, on ne sait plus très bien s'il est encore militant ou pas, mais le fait
en
est qu'il
cas,
est militant
en LREM. En tout cas, il était responsable d'une section LREM,
exactement,
visiblement,
exactement.
J'ai
et
vu le
donc,
site. Oui.
Cette tribune, elle n'a qu'un intérêt, c'est de venir au secours du président de la République. Il faut sauver le président qui effectivement a dit qu'il voulait emmerder les Français, et donc maintenant il faut essayer de crédibiliser ce discours et d'aller, finalement c'est le club des majorettes, aller avec les majorettes, c'est les pom-pom girls en fait, il faut aller avec les pom-pom girls, c'est le club des pom-pom girls qui viennent effectivement, les bolos et les pop, le président de la République il est populaire, et les non-vaccinés c'est les bolos, tout ça est un truc d'adolescent, rien d'adolescent attardé, et en l'occurrence mon confrère ferait bien de réviser ses cours de droit, parce que administration de substances nuisibles, il ne peut pas, ou alors il faut le radier dans la minute parce qu'il a un problème de compétence, ou alors effectivement il est de très mauvaise foi, parce que vous devez, l'administration de substances nuisibles, elle suppose deux choses, c'est tout bête, mais finalement, l'administration... Trois choses. Deux substances nuisibles, bon, quand même. Maintenant, voilà que le virus est une substance, bon, je savais pas, mais c'est pas grave, et que c'est moi qui administre le virus, et au demeurant volontairement. Et l'exemple pris avec le sida est quand même incroyable quand on y pense, dans la mesure où ceux qui ont été condamnés, ce sont des gens qui ont transmis volontairement le sida, ou en tout état de cause, en taisant
leur
fait séropositivité. Contaminant, leur séropositivité. Donc voilà. Mais quand même, ici, on parle de gens qui sont non vaccinés, dont le seul tort est de ne pas être vaccinés, et lorsqu'effectivement ils sont positifs, ils s'isolent. Maintenant, reprenons le fil. Qu'en est-il d'une personne vaccinée qui a des symptômes et qui ne se fait pas tester, mais qui continue de se balader avec son pass sanitaire et maintenant vaccinal, absolument partout? Est-ce qu'on peut avoir le même raisonnement? En toute logique, mon confrère aurait dû immédiatement prendre sa robe, mettre sa robe, effectivement, aller dans sa belle plaidoirie, expliquer que, bien sûr, le principe d'égalité commande de dire que, dans ce cas-là, les personnes vaccinées, au demeurant, auraient commis une faute d'imprudence majeure ayant conduit peut-être à la mort d'un non-vacciné, ou même d'un vacciné, peu importe, ayant conduit à la mort. Non, la vérité, c'est que mon confrère ne fait pas du droit, de la même façon que le médecin ne fait pas de médecine, pour une raison très simple, c'est qu'on sait qui c'est, hein, le médecin, c'est le frère de Nathan Sabja. Le frère de Nathan Samja, qui est très 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 présent sur les réseaux sociaux, qui a été le poulain de Yazdan au conseil scientifique, et dont on sait effectivement toute l'aversion et toute la haine qu'il a à l'égard effectivement des non-vaccinés, mais qui plus est, c'est les anti-Raoult, c'est tout ce monde-là en fait, c'est ce monde des no-fake-made, c'est les ayatollahs du Covid, ce sont effectivement les nouveaux talibans du Covid. Nous sommes dans un système où on est des talibans, nous sommes en Afghanistan aujourd'hui, l'Afghanistan du Covid, avec d'un côté les talibans et les autres qu'on doit enfermer. On veut nous enfermer et même on veut nous emmurer vivants. Ce sont les enfermistes qui rêvent de confinement, qui rêvent de couvre-feu, qui maintenant rêvent de poursuites contre les non-vaccinés. Le tout dans un but unique, c'est effectivement d'attirer la gloire sur eux, la lumière sur eux, parce que concrètement, Samja et mon confrère Felous, est-ce que vous connaissiez Felous avant cette tribune? Non, absolument pas. Et donc voilà que maintenant, il aura les grâces de la LREM. Vous avez vu le sondage, et c'est pas anodin dont vous parliez. Vous avez vu qu'une majorité des électeurs LREM est favorable au fait de punir les non-vaccinés en ne remboursant pas les soins. Et là, mon confrère enfonce des portes ouvertes en espérant à quelques semaines des candidatures et des investitures avoir quelques avantages de Sa Majesté le Roi. On a toujours fait ça dans l'histoire de France. Avec la monarchie absolue. Hein.
Je voulais vous dire quelque chose. Et mon raisonnement, quand j'ai lu cette tribune, vous allez me dire si je suis à côté de la plaque ou pas, Fabrice Di Visio. Prenons, acceptez le postulat qu'un juge, un jour, les rejoigne, Maître Felous, voilà, et le professeur Smadja, en faisant condamner pour tentative de meurtre, par exemple, un non-vacciné. Eh bien, moi, je vais plus loin. Quelques semaines plus tard, après cette condamnation très médiatique, un non-vacciné s'approche d'un vacciné. Le vacciné le soupçonne d'avoir le virus et de ne pas lui dire. Il le bute. Il dirait « J'étais en légitime défense puisque j'ai un meurtrier qui venait vers moi ».
En fait, ce que fait cette tribune... Ce que fait cette tribune, elle fait deux choses de très graves. Un, elle humilie. Elle vise à humilier, à stigmatiser, remplacer un instant non vacciné par musulman. En disant que finalement, tous les musulmans qui fréquentent la mosquée du 93, de je ne sais pas où, effectivement, sont des terroristes en puissance. C'est ces amalgames permanents qui ont conduit toujours à la haine. Mais le but...
Et que tous les homosexuels sont des pédophiles.
Bien sûr, Le but, effectivement, il n'est absolument jamais de contribuer à un débat public. Et le but, en ces temps troublés, n'est pas de mettre la paix dans les cœurs, ni effectivement dans les foyers. Le but, il est de tirer la couverture à soi. Rien d'autre. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont qui pactisent avec le diable. Nous avons des gens qui, concrètement... C'est ce que j'appelais tout à l'heure le club des pom-pom girls, où vous avez effectivement le président de la République aujourd'hui fait figure de chef-taine des pom-pom girls, et vous avez toutes les petites minettes qui sont là avec lui en train d'effectivement se secouer les pompons et venir humilier ceux qu'on qualifie volontiers de bolos. Voilà, attention, parce que l'histoire, la vérité, c'est que ce que ces gens ne voient pas, c'est que l'histoire est en train de nous donner raison. Ce que ces gens ne voient pas, c'est qu'aujourd'hui les pays qui souffrent véritablement de mortalité majeure du Covid, ce sont les pays majoritairement vaccinés. Qu'aujourd'hui, nous avons quand même un gros problème, c'est que nous avons des courbes qui sont largement supérieures à celles de l'Angleterre, qui, elle, n'est soumise à rien, largement supérieure à celles de la Suède. Qu'au demeurant, nous avons un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous savons, sauf être de très mauvaise foi, que la vaccination facilite la contamination par les anticorps facilitants. Donc attention, et d'ailleurs, le discours commence à changer, ils n'ont pas perçu ce petit changement. Mais si vous écoutez sur les plateaux télé, on ne vous dit plus maintenant que le vaccin empêche la transmission. Il n'y a que Castex qui vous le dit. Mais sinon, les médecins, même aujourd'hui, regardez ce qu'a dit de manière incroyable Éric Combes sur LCI. C'est un mauvais vaccin. C'est un mauvais vaccin. Même Laurent Alexandre sur TPMP commence à en revenir. Il est loin le temps où on mangeait son chapeau si Israël était confronté à une autre vague. Il est loin le temps où après la super vaccination d'Israël, on mangerait son chapeau s'il y avait de nouveau des morts. Aujourd'hui, on avoue que le vaccin est moyen. Et alors qu'on avoue que le vaccin est moyen, il faut quand même sauver la stratégie du tout vaccinal. Et donc, on envoie des politiques à la rescousse, en pompier un peu pyromane. On envoie des politiques, parce que Felouz, c'est un politique, et des confrères qui, sous couvert de leur robe, des médecins qui, sous couvert d'un statut de professeur, quelle est la probabilité? Est-ce que vous voulez expliquer quelle est la probabilité pour qu'un avocat et un professeur de médecine se rencontrent autour de cette question? Et c'est pas inutile, parce que le confrère vous dira qu'il a défendu quelqu'un qui avait été contaminé à l'hôpital, et c'est scandaleux, et il a accusé les soignants. En fait, il a accusé les soignants de contaminer son client. Mais je m'excuse, les soignants sont masqués, étaient déjà tous masqués. Les patients étaient tous masqués. Donc voilà, vous voyez qu'effectivement, ça amenait déjà ce procès, il amenait déjà l'étape d'après qui était donc la vaccination obligatoire des soignants. Et aujourd'hui, où tous les soignants sont vaccinés et où concrètement, on entre à l'hôpital avec un pass sanitaire, eh bien, est-ce qu'on m'explique pourquoi on a autant d'hôpitaux qui interdisent les visites au motif qu'il y a des clusters? Vous voyez bien que tout ça n'est plus scientifique, mais tout ça ne l'a jamais été finalement scientifique. Si vous voyez, il n'y a que les imbéciles pour croire que nous sommes dans des mesures scientifiques. Eh bien, pardon, mais à un moment donné, il faut quand même regarder, c'est Peggy qui écrivait, il faut dire ce que je vois, dire ce qu'on voit, et plus difficile encore, voir ce que l'on voit. Aujourd'hui, il faut voir que tout ça n'a plus rien de sanitaire, que le pass vaccinal est une hérésie monumentale.
C'est le rôle des journalistes aussi, on est formés, normalement on devrait faire ça. Voir ce que l'on voit et dire ce que l'on voit.
Les journalistes, en fait, si vous voulez très clairement aujourd'hui, ma question, je vais vous dire, il y a deux problèmes dans cette histoire. Il y a deux problèmes qui ne sont pas inintéressants. C'est un, on en est où, et deux, on va où? Pas tellement on vient d'où, mais finalement, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va? Alors, ces deux questions, elles sont importantes, parce que où est-ce qu'on en est? On est dans un état de sécession. Mmh. On est aux prémices d'une sécession. À l'heure où l'État vote les lois sur le séparatisme ou contre le séparatisme, il a lui-même induit un autre séparatisme. Mmh. Et en fait, il a pris des mesures sur le séparatisme islamique pour pouvoir mieux les appliquer ensuite à d'autres personnes, d'autres minorités. Et nous sommes aujourd'hui dans une société où il est à craindre que les minorités ne soient pourchassées. Et c'est le début, probablement, d'une nouvelle ère de persécution des minorités. Aujourd'hui, non vaccinées. Demain, musulmanes, juives, ce que vous voulez. Enfin, si elles ne sont pas électoralement compatibles. Deuxième élément, où est-ce qu'on va? Eh bien, on va vers une société parallèle. On va vers une société où, concrètement, vous allez avoir une organisation et une partition du territoire. On a déjà ces éléments avec ce qu'on appelait jadis, c'est ce qu'on appelle encore, les territoires perdus de la République, où on sait qu'aujourd'hui, par le jeu de la délinquance, vous avez des territoires qui échappent à la loi de l'État. Vous avez des territoires où il y a les flics ne rentrent plus, où il n'y a plus de services publics, et où finalement, vous avez une minorité qui fait la loi, et qui est une communauté, qui est communautariste, le communautarisme, qui viennent effectivement se déployer. Et ben, c'est ça qu'on va vivre. Parce que moi, c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est ce que je suis en train de créer. Allez, je ne suis pas un danger. Je ne suis pas un danger. Sa vocation, une de ses vocations, elle est là. Elle est d'aller chercher des fonds auprès des entreprises et de leur montrer qu'il y a un marché qui n'est pas de 10 millions, mais plutôt de 20 ou de 25. Parce que la réalité, c'est que quand vous voulez faire des doses tous les 3 mois, on va gagner des adhérents à chaque fois. Et de montrer aux entreprises qu'on a un nouveau marché à conquérir, français, mais européen. Et que finalement, on a peut-être intérêt à créer une société dans la société. La vérité, elle est peut-être là. Et qu'on a peut-être à créer nos propres réseaux. Nos propres réseaux de transport, sans doute moins favorables que le TGV, mais encore que, avec la libéralisation européenne, tout est possible. Peut-être qu'on a un intérêt aujourd'hui à venir créer, autant que faire se peut, une société au sein de la société. Et peut-être qu'on a un intérêt aujourd'hui à venir expliquer, notamment aux restaurateurs, par exemple, que qu'ils sont en train de se mourir, qu'il est peut-être venu le temps de désobéir. Et enfin, dernier point, j'ajoute un dernier point sur là où on va. On va vers une société d'imbéciles. On va vers une société d'imbéciles au sens où, effectivement, quand vous avez 52% des Français qui sont capables de ne pas voir ce qui se passe au travers de cette question des non-vaccinés, c'est inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on est en train d'induire une partition, notamment économique, parce que moi, je m'en tape complètement de leur passe vaccinale, si vous voulez. Je m'en tamponne la cacahuète. Ça n'affectera pas, vu mon niveau de revenu, ça n'affectera pas ma vie. Je veux dire, maintenant, c'est ce que je disais autrefois. Est-ce que vous pensez, notamment que Michel Édouard Leclerc, si jamais ça pensait que, est-ce que demain matin, vous connaissez quelqu'un qui va demander à la fille de Michel Édouard Leclerc son pass sanitaire pour aller faire du tennis? Si jamais on lui demande, il achètera le cours en entier. Maintenant, par contre, les gamins du 93 dont je viens, eux, si je comprends bien, si tu veux avoir un bouquin, fais-toi piquer. Donc l'accès à la culture conditionné par la piqûre. L'accès au sport conditionné par la piqûre. Donc, c'est-à-dire que vous induisez encore plus, vous avez une double peine. Ceux qui sont déjà pénalisés par la vie se retrouvent de nouveau pénalisés, sauf à se faire vacciner. On va dire, c'est pas grave, ils ont qu'à se faire vacciner. Ouais, ils n'y ont aucun bénéfice. Alors que c'est des gamins, ils n'y ont aucun bénéfice. Zéro, pas un. Mais par contre, l'État l'a décidé ainsi, et donc ils n'ont guère de choix autre que obéir ou mourir. Et bien ça, vous voyez, et bien ça là, ça on le paiera, mais alors vous n'imaginez pas à quel point on le paiera, parce que ça là, ce drame là, c'est pas un drame de civilisation, c'est un drame de fin de civilisation. Et qu'on assiste sous nos yeux à une civilisation déclinante, à une civilisation qui est en train de disparaître, et qui est en train de laisser sur le bord du chemin toute une catégorie de la population, et comme d'habitude, la moins favorisée. Que vous allez avoir quelque chose qui va se creuser, c'est le flot des inégalités qui va se creuser de plus en plus. Et aujourd'hui encore, eh bien, vous avez affaire aux très riches, dont je fais partie modestement à mon niveau, qui effectivement peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, et vous avez de l'autre les catégories populaires et même moyennes, mais qui plus est effectivement encore plus populaires, qui ne peuvent plus rien se permettre. Eh bien, vous creusez les inégalités et vous arrivez exactement au système des ghettos. Vous allez créer des ghettos. Bravo.
Et pour les classes populaires, c'est l'État qui entretient, qui donne le logement via les logements sociaux,
absolument,
qui donne les allocations et qui contrôle tout, finalement.
Mais vous savez...
Et on te donnera Netflix gratos, en plus.
Mais vous savez, depuis le départ, je dénonce ça. Le confinement, c'est un truc de bourgeois. Le confinement, on aime le confinement. Mais qu'est-ce qu'on aime, le confinement? Écoutez Sam Jean.
À la boule, tout le monde aimait le confinement.
Mais exactement. Mais moi, alors je vais vous dire, moi je réclame, moi j'ai écrit au président de la République pour le supplier de nous reconfiner, en fait. Parce que concrètement, je vis dans 300 mètres carrés à 5 et j'ai à peu près une vingtaine d'hectares autour de moi. Et là, donc, mais confinez-moi, bordel, j'ai effectivement la fibre, confinez-moi. La vérité, c'est que le confinement à 5 dans 80 mètres carrés au surplus avec un enfant autiste, c'est plus compliqué déjà. Mais ça, Si vous voulez, c'est toujours le même problème. Vous avez ceux qui discutent de la pauvreté et ceux qui subissent la pauvreté, et vous avez ceux qui discutent de la liberté et ceux qui se battent.
Mais
pour la
pauvre maman, seule, qui est divorcée, qui élève son fils seul, peut-être dans un deux pièces cuisine, qui est à Nanterre, qui prend son RER tous les matins, voilà, celle-là.
Oui, mais ça, cette France-là, elle est pas en marche, cher ami. Cette France-là, elle est pas en marche. Cette France-là, elle fait du surplace. Cette France-là, elle ne contribue pas au meeting, effectivement, d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas in. Elle n'est pas en marche. Elle ne fait pas partie du club des pom-pom girls. La pauvre dame qui vient, effectivement, faire ce trois quarts d'heure de RER. Imaginez un instant qu'elle soit immigrée en plus. Elle n'est guère très présentable dans la France d'Emmanuel Macron. Elle fait partie de celles qui ne sont rien. Vous savez, ces gens qui ne sont rien et qu'on croise dans les gares, Dieu sait si peut-être même cette dame, on la croisera dans une gare et on pourra la reconnaître en ce qu'elle n'est rien. Dans les gares, vous avez ceux qui ne sont rien, mais il aurait dû dire pas tout à fait, car vous avez les hommes d'affaires dans les gares. Ceux qui voyagent en première, ceux qui effectivement ont leur salon privé, et vous avez les autres qui s'entassent dans le RER. Vous avez ceux qui habitent à Tours et qui travaillent à Paris avec effectivement TGV, parce que c'est confortable, vous savez, c'est à peine plus que finalement habiter au fond à Gare du Nord quand vous travaillez au Marne-la-Vallée. Oui. À cette différence là, c'est que le voyage, il vous coûte 15 fois plus cher. Mais ça, vous pouvez vous le permettre. La vérité, c'est qu'on a creusé les inégalités comme jamais sous ce quinquennat, et qu'on est en train de payer aujourd'hui la conséquence, et que on voit bien qu'il y a une jouissance de la part d'Emmanuel Macron, et on voit bien que finalement, c'est pas totalement anodin. J'ai aucune raison de dire ça, je m'en fous. Mais on voit bien si finalement, dans le schéma électoral de ces personnes là qui à propos du sondage dont on parlait tout à l'heure, au fond, les seuls qui s'en sortent à peu près correctement, c'est la France insoumise. C'est les électeurs France insoumise. Parce que c'est qui les électeurs France insoumise? Les électeurs France insoumise, c'est ceux qui concrètement galèrent tous les matins pour aller bosser. C'est ceux qui, quand ils reviennent le soir, se demandent « Putain, combien j'ai gagné aujourd'hui ?»
Oui, enfin, ça c'est plutôt les électeurs du Front National, Fabrice Divisio. Les France insoumise, oui, c'est plus des fonctionnaires qui ont un salaire aussi protégé.
Eh ben alors écoutez, c'est très curieux parce que finalement, vous vous apercevez que les électeurs du Front National, eux, sont majoritairement favorables à ce que les personnes non vaccinées payent leurs soins de réanimation.
Voilà.
Ils sont majoritairement favorables à ça. Ce qui prouve que l'individualisme engendre toujours l'individualisme. C'est tout.
Et dont on ne mesure pas les conséquences.
On ne mesure jamais les conséquences. C'est pour ça que je me bats sur la question de l'immigration en disant il faut qu'on arrête de théoriser l'immigration. S'il y a des problèmes, il faut les régler. Mais arrêtez de généraliser, de conceptualiser, parce que tôt ou tard, en désignant un ennemi, vous allez réellement en faire un ennemi, et le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Aujourd'hui, si vous voulez, le véritable drame auquel on assiste dans cette société, je le redis avec une insistance particulière, vous avez ceux qui discutent de la pauvreté et ceux qui subissent la pauvreté. Vous avez ceux qui discutent du confinement et ceux qui vivent le confinement. Et vous avez ceux qui discutent, finalement, de la culture et des sports. On est capable quand même de venir vous expliquer aujourd'hui que concrètement, le sport est un élément d'accès à la vie extrêmement important. Et on en prive des gamins. Mais non, et on est capable de vous dire, mais pas du tout. Mais comment ça, pas du tout? Mais il suffit qu'ils soient vaccinés. Mais pourquoi se ferait-il vacciner? Pourquoi? Pourquoi, quand j'ai 15 ans aujourd'hui, je me ferais vacciner? Pourquoi? Parce que si le vaccin empêchait la transmission, soit, mais maintenant on le sait. Mais pour éviter, on n'est plus capable d'avoir un discours rationnel. C'est ça la vérité. Et on va le payer cher parce que aujourd'hui, en France, vous avez une personne sur cinq qui pense à en finir. Vous avez une personne sur cinq qui menace de passer à l'acte de suicide. C'est ça la vérité.
De toute façon, en France, on ne peut plus avoir de discours, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur migration, sur plein d'autres sujets. Quand on parle des fake news, il y a 20 ans, quand des journalistes avaient tenté de dire que Saddam Hussein n'avait peut-être pas les armes chimiques et qu'il y avait peut-être des fake news envoyées par la CIA, on les accusait d'être des alliés du terroriste. Voilà. Et puis l'histoire a montré. Donc il faut toujours être patient et attendre. Voilà.
Absolument.
Et l'histoire montre souvent que les foules se trompent.
Sauf que le problème qui se pose, c'est que attendre ici, ça devient un luxe de pouvoir attendre. Parce que pour l'instant, vous avez des gens qui ne vivent pas. Eh bien, voyez-vous, mon but à moi, c'est de faire en sorte que les gens vivent quand même. Et de montrer à l'État, pour faire simple, que si l'État cherche à m'emmerder, il peut m'emmerder tout ce qu'il veut. Mais que la vérité, c'est qu'à un moment donné, l'erreur qu'il fait, c'est de penser qu'il a un pouvoir sur nous. Il y a une bande là de Gaulois réfractaires qui ne se feront pas vacciner s'ils ne le veulent pas. S'ils le veulent, ils le feront, c'est leur problème. Mais en tout cas, moi, je veux leur laisser la possibilité de le faire s'ils le souhaitent et de ne pas le faire s'ils ne le souhaitent pas. Mais en tout cas, de ne pas le faire avec le couteau sous la gorge.
Merci. Maître Divisio, Fabrice Divisio, donc, qui était mon invité. Je rappelle le site que vous avez lancé, hein, je ne suis pas un danger.com.
Absolument.
Qui est, voilà, ce site qui informe tout le monde sur l'association, sur les actions en cours.
Merci. Oui, et maître. Qui effectivement invite également quand même à adhérer. Parce
voilà,
que,
c'est
parce
important, que ce site, oui, c'est le carburant.
Parce que c'est le site par lequel, bah, on aide des gens, par lequel concrètement on met à disposition des moyens. On a recruté, on a créé, déjà, on a créé 5 emplois sur ce site. Voilà, des gens qui étaient suspendus. On les a créés. On a créé des emplois et on va venir effectivement véritablement au travers de plusieurs applications mobiles qui vont naître dans les semaines prochaines apporter des solutions concrètes aux gens.
Merci, maître Divisio. Je rappelle donc le site pour ceux qui nous écoutent en voiture. Je ne suis pas un danger.com. Et de toute façon, on va le mettre en ligne. Merci.